Un adolescent, livre 3, chapitre 5. 1. Aussitôt que je fus annoncée, Anna Andreïevna posa son ouvrage et vint rapidement à ma rencontre dans la première chambre. Courtoisie inhabituelle. Elle me tendit ses deux mains et rougit fortement. Elle me conduisit chez elle, sans rien dire, et me plaçant à ses côtés, s'assit de nouveau auprès de son travail. Mais elle ne reprit pas sa couture et continua à m'examiner avec le même intérêt chaleureux et toujours sans rien dire. « Vous avez envoyé Daria Onésimovna chez moi. » Commençais-je un peu gênée par cet intérêt trop affecté, qui pourtant m'impressionnait fort agréablement. Négligeant ce que je venais de lui dire, « J'ai tout appris, je sais tout, » gémit-elle. « Terrible nuit. « Oh, comme vous avez dû souffrir! Est-ce vrai qu'on vous ait trouvé sans connaissance par ce grand froid ?»« C'est Lambert qui vous a... » balbutiai-je en rougissant. « J'ai tout su par lui, mais je vous attendais. Oh, il était venu chez moi bien effrayé. Dans votre maison, où vous étiez couché malade, on n'a pas voulu le laisser pénétrer auprès de vous, et on l'a singulièrement reçu. » Il m'a dit qu'à peine aviez-vous repris connaissance, vous parliez déjà de moi et de votre dévouement pour moi. J'étais émue jusqu'aux larmes, Arkad Makarovitch, et je ne sais même pas par quoi j'ai mérité un si ardent intérêt. Cela dans la situation où vous étiez vous-même. Dites, Monsieur Lambert est-il votre ami d'enfance ? Oui, mais cet accident, j'avoue que je fus imprudent. Et peut-être en ai-je trop dit. Oh, j'aurais bien appris cette affreuse machination sans lui. J'ai toujours, toujours pressenti qu'il vous en ferait arriver là. Dites, est-il vrai que Bioring ait osé lever la main sur vous ?
S'il avait levé la main sur moi, il eût été châtié.
Je sentais qu'elle voulait m'exciter contre quelqu'un, que l'on devine. Néanmoins, je donnais prise. « Vous aviez prévu, dites-vous, que grâce à eux j'en arriverais là. Du moins, entre Catherine Nikolaïevna et moi, il ne peut y avoir eu qu'un malentendu. Quoiqu'il soit bien vrai qu'elle ait trop vite modifié ses bons sentiments à mon égard. »«
Justement, trop vite !»
s'empressa Anna Andreïevna dans un élan de compassion. « Ah, si vous saviez quelle intrigue se mène en ce moment là-bas !» « Naturellement, Arkad Makarovitch, il vous est difficile de comprendre tout le côté délicat de ma situation, » prononça-t-elle, rougissant et en baissant les yeux. « Dans le monde, naturellement, on me jettera la pierre. On l'a déjà fait. Je suis délaissée par mon père depuis l'enfance. Nous, les Versilov, une vieille noblesse, nous ne possédons rien et je mange le pain étranger. » N'est-il pas naturel que je m'adresse à celui qui, dès l'enfance, a remplacé mon père, à celui qui m'a comblé d'incessants bienfaits ? Dieu seul voit nos sentiments, et je n'admets pas le jugement du monde. Et ce bienfaiteur, voici que sa propre fille complote sa perte. Est-ce supportable ? Non. Et quand j'y devrais ruiner ma réputation, je le sauverai. Je suis prête à vivre chez lui comme sa servante et sa garde. Mais je ne permettrai pas le triomphe d'un bas calcul. » Elle parlait avec une animation extraordinaire, à moitié factice peut-être, mais sincère tout de même, car on peut mentir sincèrement. « Anna Andreïevna, qu'attendez-vous de moi ? » ?»«
Que signifie votre question, Arkad Makarovitch ? » ?»«
Tout me fait croire que vous m'avez envoyé chercher parce que vous attendez quelque chose de moi. » Mais quoi, précisément ? Esquivant la question, elle se remit à parler avec le même feu.
Mais je ne puis pas, je suis trop fière pour entrer dans des explications et arrangements avec des personnes inconnues, comme Monsieur Lambert. Je vous attendais, vous, et non Monsieur Lambert. Ma situation est affreuse, Arkad Makarovitch. Enveloppée par les menées de cette femme, je suis contrainte à la ruse, et ce m'est insupportable. Je m'abaisse presque jusqu'à l'intrigue. Je vous attendais comme un sauveur. celui qui, mourant de froid, répétait mon nom, et mon nom seul, celui-là évidemment m'est dévoué. Mais d'ailleurs, est-ce de moi qu'il s'agit ? Non. Mais si le malheureux vieillard, persécuté par sa propre fille, peut compter sur vous comme sur un ami, il vous aime comme son enfant. Si vous avez de la reconnaissance, de la générosité et du courage, venez à son aide. Et si vraiment vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Pour moi, même de vous, je n'attends rien, après que mon propre père m'a joué un tour si perfide. Il me semble qu'André Petrovitch... André Petrovitch ? Interrompit-elle avec un sourire amer. André Petrovitch a répondu à ma question franche par sa parole d'honneur qu'il n'avait nul dessein sur Catherine Nikolaïevna, ce dont j'étais complètement persuadée quand j'ai hasardé ma démarche. Et tout de même, il paraît...
Mais vous n'y êtes pas du tout.
Moi aussi croyais à son amour pour cette femme. Erreur, erreur.
Et maintenant que ce monsieur a été congédié...
Quel monsieur ?
Bioring.
Qui vous a parlé de congé ?
Peut-être ce monsieur a-t-il plus de pouvoir que jamais ?
Dit-elle avec un sourire narquois. Et qui m'en a parlé ?
Daria Onésimovna.
Daria Onésimovna est une charmante personne, et je ne puis lui défendre de m'aimer, mais elle ignore ce qui ne la regarde pas. Mon cœur se serra, et comme elle comptait précisément allumer mon indignation, l'indignation bouillonna en moi, non contre l'autre femme, mais pour le moment contre Anna Andreïevna elle-même. Je me levai. En honnête homme, je dois vous prévenir, Anna Andreïevna, que vos espérances, sur mon compte, pourraient bien être vaines.
J'espère que vous me défendrez, moi abandonnée de tous.
Votre sœur, si vous voulez, Arkad Makarovitch. Pour un peu, elle aurait pleuré. Eh bien, n'y comptez pas trop, cela vaudra mieux, parce qu'il n'y aura rien, peut-être.
Comment dois-je comprendre vos paroles ?
Dit-elle avec trop de prudence. Vous pouvez entendre que je m'écarterai de vous tous.
Et basta !
Criai-je tout à coup presque en fureur. Le document, je le déchirerai. Adieu. Je la saluai, sortis. Je n'avais pas encore descendu l'escalier que Daria Onésimovna m'avait rejoint, munie d'un papier plié en deux. D'où sortait Daria et où elle s'était tenue pendant ma conversation avec Anna Andreïevna. Je ne pus le comprendre. Sans prononcer un seul mot, elle me remit le papier et disparut. Je le dépliai. L'adresse de Lambert y était écrite. Je me rappelai alors avoir dit à Daria, lors de ma visite, que je ne savais pas où demeurait Lambert. Le sens était « je ne sais pas et ne veux pas savoir ». En fait, l'adresse, je la connaissais, ayant prié Lise de se la procurer au bureau ad hoc. L'initiative d'Anna Andreïevna me parut trop significative, même cynique. Malgré mon refus de lui prêter concours, elle m'envoie carrément chez Lambert. Il devenait limpide pour moi qu'elle savait déjà tout du document. Et par qui, sinon par Lambert ? Décidément, ils me prennent tous pour un garçon sans caractère, avec qui on peut tout oser, pensai-je avec indignation. 2. Néanmoins, je suis allé chez Lambert. Où satisfaire ailleurs la curiosité qui me possédait ? Lambert habitait très loin, dans la ruelle courbe, près du jardin d'été. Deux individus postés sur son palier, celui du troisième étage, me dévisageaient tandis que je gravissais les dernières marches. Feignant de ne pas les voir, j'avance la main vers la sonnette. « Attendez !» me crie l'un d'eux. « Je vous prie, attendez !» répète l'autre d'une voix douce. « Nous allons terminer, nous entrerons ensemble, voulez-vous ?» Je m'arrêtai. C'était encore de très jeunes gens, 20 à 22 ans. Ils accomplissaient devant la porte quelque étrange besogne que je m'efforçais en vain de comprendre. Celui qui avait crié « Attendez !» était de grande taille, maigre, très musclé, avec une trop petite tête un peu grêlée et une physionomie comiquement ténébreuse, assez intelligente d'ailleurs, et presque agréable. Ses regards toutefois étaient par trop insistants et hardis. Il était mal attifé, une vieille capote ouatée, trop courte, évidemment ce n'est pas pour lui qu'elle avait été faite, ornée d'un petit col de genette dépoilé, de méchantes bottes rongées, presque paysannes. Un haut de forme, affreusement cabossé et roussi. Malpropre, pas de gants et de funèbres ongles. Son compagnon, lui, était mis avec recherche. Légère pelisse de martre, chapeau neuf et gants paille moulant des doigts effilés. De même taille que moi, une physionomie séduisante, un visage jeune et frais. Le grand retira sa cravate, un ruban crasseux, presque une ficelle, et l'autre, ayant extrait de sa poche une cravate noire toute neuve, la lui nouait au long cou qu'il tendait docilement et de l'air le plus grave. « Non, cela ne va pas, la chemise est trop sale, » prononça celui qui nouait la cravate. « Et par contraste, elle paraîtra plus sale encore. Je t'avais pourtant dit de mettre le faux col. « Je ne sais pas, vous ne savez pas ?» s'adressa-t-il subitement à moi. « Quoi ? » demandai-je. « Mais faire un nœud de cravate, voyez-vous, il faudrait qu'elle bouffe, de façon que l'on ne voit pas la chemise, sinon tout l'effet est raté, je vous dis. C'est une cravate que je viens de lui acheter tout exprès chez le coiffeur Philippe. Coût 1 rouble. »« C'est l'autre rouble ?» balbutia le grand. « Oui, l'autre, de sorte que je n'ai plus un copec. Alors, vous ne savez pas ? Dans ce cas, il faudra prier Alphonsine. » « Vous allez chez Lambert ?» me demanda tout à coup et assez rudement le grand. « Chez Lambert, » répondis-je avec résolution, le regardant dans les yeux. « Dolgorovski ? » questionna-t-il du même ton. « Non, pas Korovkin, » répondis-je avec la même rudesse, ayant mal entendu. « Dolgorovski !» répéta le long cou en me menaçant de sa petite tête. Son compagnon se mit à rire. Il dit « Dolgorovski et non Korovkin, m'expliqua-t-il. « Vous savez, les Français, dans le journal des débats, écorchent souvent les noms russes. Je vous demande pardon. Vous êtes Monsieur Dolgorouki ?»« Oui, je suis Dolgorouki. Et comment le savez-vous » Le long cou avait chuchoté quelque chose au gentil garçon. Celui-ci fronça les sourcils et fit un geste négatif. Mais le long cou, m'interpellant à brûle-pourpoint, « Monsieur le prince, vous n'auriez pas 1 rouble d'argent pour nous ? Pas 2, mais 1 seul. Voulez-vous ?»« Oh, l'animal !» Maurice gêna l'autre. « Nous vous rendons !» conclut le long cou en estropiant grossièrement les mots français. « Vous savez, c'est un cynique, » expliqua le camarade. « Vous pensez qu'il ne sait pas le français ? Il parle comme un parisien. Seulement, il contrefait les Russes, qui ont la manie de parler entre eux une langue qu'ils savent mal. « Dans les wagons !» spécifia le long cou. « Eh oui, dans les wagons aussi. Ah, que tu es ennuyeux. Il n'y a pas à expliquer. Quel plaisir trouves-tu à faire l'imbécile ?» Cependant, j'avais pris 1 rouble et le tendais au long cou. « Nous vous rendons !» assura-t-il. Il enfouit la pièce, et tournant vers la porte un visage solennel, il se mit à frapper du bout de sa lourde chaussure. « Ah, tu vas encore te colter avec Lambert ?» fit son compagnon avec inquiétude. « Je vous en prie, sonnez, vous !» Je sonne, mais le long cou n'en continue pas moins à tapager de sa botte. « Ah, sacré !» fit soudain la voix de Lambert derrière la porte, et il ouvrit. « Dites donc, voulez-vous que je vous casse la tête, mon ami » cria-t-il au long cou. « Mon ami, voilà Dolgorovki. L'autre, mon ami !» prononça l'encombrant personnage en toisant Lambert, devenu cramoisi de fureur. À peine celui-ci m'eut-il aperçu qu'il se calmait net et, comme transfiguré, « C'est toi, cher Arcade, enfin ! Eh bien, tu es guéri, enfin guéri !» Il me serrait les mains avec force. Son ravissement apparut tellement sincère que je ressentis un soudain plaisir et même une sorte de tendresse.
« À toi la première visite !»«
Alphonsine !»
héla Lambert.
Elle se dégagea du paravent protecteur.
« Le voilà !»«
C'est lui !» s'exclama Alphonsine en battant des mains. Elle se précipitait pour m'embrasser, mais Lambert s'interposa à temps.
« Tout beau ! Vois-tu, Arcade, nous avions convenu à plusieurs de dîner aujourd'hui chez les Tatars.
Je ne te lâche pas. Viens avec nous. Nous dînerons. Eux, je les mettrai de bonne heure à la porte. Et alors, on causera.
Mais entre donc. Nous sortons tout de suite. Un moment seulement. Attends. »
Je restai debout au milieu de la chambre, jetant un regard circulaire et me ressouvenant. Derrière le paravent, Lambert s'habillait à la hâte. Le long cou et son compagnon entrèrent aussi, peu susceptibles. Nous étions tous debout.
« Mademoiselle Alphonsine, voulez-vous me baiser ?»
beugla le long cou.
« Mademoiselle Alphonsine !» commença l'autre en lui montrant la cravate. Furieusement, elle les repoussa tous les deux.
« Ah, le petit vilain !» cria-t-elle au plus jeune. « Ne m'approchez pas, ne me salissez pas. Et vous, le grand dadais, je vous flanque à la porte tous les deux, savez-vous ?»
Le premier, bien qu'elle l'éloignât avec mépris, comme craignant pour de bon de se salir à son contact, ce que je ne comprenais pas du tout, car il était à corps et très proprement mis, comme on vit bien quand il ôta sa pelisse, la priait avec instance de nouer la cravate au long ami, après toutefois qu'elle l'aurait bouclée dans un des faux cols de Lambert. Alphonsine faillit les battre. Mais de derrière le paravent, Lambert lui cria d'obtempérer pour avoir la paix. Et Alphonsine obtempéra en effet, et sans la moindre aversion pour la saleté du long ami.
« Mademoiselle Alphonsine, avez-vous vendu votre Bologne ? » demanda-t-il.
« Qu'est-ce que ça, ma Bologne ?»
Le long cou expliqua que « ma Bologne » signifiait « un chien ».
« Tiens, quel est ce baragouin ?»«
Je parle comme une dame russe sur les eaux minérales, » répondit le grand dadais, le cou toujours tendu.
« Qu'est-ce que ça, une dame russe sur les eaux minérales ? Et où est donc votre jolie montre que Lambert vous a donnée ? »
dit-elle, s'adressant tout à coup au joli garçon.
« Comment ? De nouveau pas de montre ?»
gronda Lambert de derrière le paravent.
« On l'a mangée !» proclama le grand dadais. « Je l'ai vendue pour 8 roubles. Elle était en argent doré et vous l'aviez dit en or. Une montre pareille coûte au bazar 16 roubles. »«
Il faut mettre fin à cela !» continua Lambert avec une irritation croissante. « Je ne vous achète pas des vêtements ni ne vous donne des bijoux, mon jeune ami, afin que vous les vendiez au bénéfice de votre long ami. Quelle cravate encore lui avez-vous achetée ?»«
Ça ne coûte qu'un rouble. Ce n'est pas de votre argent. Il n'avait pas de cravate et il lui manque encore un chapeau. »«
Bêtise !» se fâcha réellement Lambert. « Je lui ai donné suffisamment pour le chapeau, mais il lui faut tout de suite des huîtres et du champagne. » « Il sent mauvais, c'est un saligaud, on n'en veut nulle part. Comment le mènerai-je dîner ?»«
En voiture ?» brailla le dadais. « Nous avons 1 rouble d'argent que nous avons prêté chez notre nouvel ami. »«
Ne leur donne rien, Arcade !»«
Attendez, Lambert, j'exige de vous 10 roubles tout de suite !» répliqua le jeune homme, rougissant de colère, et 2 fois plus beau ainsi. Et gardez-vous de proférer jamais devant Dolgorouki des sottises comme celles que vous venez de dire. Je réclame 10 roubles pour en rendre tout de suite 1 à Dolgorouki. Avec le reste, j'achèterai un chapeau à Andreïev.
Lambert avait quitté l'abri du paravent. Voilà 3 billets jaunes, 3 roubles, et ne vous avisez plus jusqu'à mardi de rien. Autrement...
Le grand dadais lui arracha l'argent, littéralement. « Dolgorovski, voilà 1 rouble. Nous vous rendons avec beaucoup de grâce. Petia, en route » cria-t-il au compagnon. Puis, agitant les 2 billets sous le nez de Lambert, qu'il regardait dans le blanc des yeux.
« Ohé, Lambert, « Où est Lambert ? As-tu vu Lambert ? » cria-t-il.
« Ne vous avisez pas !»
hurla furieusement Lambert. Tout cela devait se rapporter à des faits antérieurs absolument inconnus de moi, et je regardais avec étonnement. Mais la virulence de Lambert n'effraya point du tout le grand diable. Au contraire, il vociféra plus haut. « Ohé, Lambert !» etc. Ils descendirent enfin. Lambert se jeta à leur poursuite, mais revint presque aussitôt. « Oh, je les chasserai, mais ça ne tardera pas. Ils coûtent plus cher qu'ils ne valent. Allons, Arcade, je suis en retard. Je suis attendu là-bas par un homme nécessaire. Une canaille aussi, tous des canailles, des pas grand-chose. Des pas grand-chose !» répéta-t-il, presque grinçant des dents. Tout à coup, il se ressaisit. « Je suis content que tu sois venu enfin. Alphonsine, pas un pas hors de la maison. Allons. » Devant le perron l'attendait une voiture. Tout le long du chemin, il ne put calmer sa fureur contre ces jeunes gens. Je m'étonnais de les voir si irrespectueux envers Lambert, et lui presque craintif devant eux. Il me semblait, à cause de l'impression enracinée en moi dès l'enfance, que tout le monde devait craindre Lambert, de sorte que, malgré toute mon indépendance, je le craignais en ce moment, moi-même. « Je te dis que tout ça, c'est de la canaille !» reprit-il. « Me croiras-tu ? Ce grand Flandrin m'avait tourmenté il y a 3 jours en bonne société. Il se campait devant moi et criait « Ohé, Lambert !»« En bonne société ? Tout le monde rit. Il sait que c'est une manière de m'extorquer de l'argent. J'ai casqué. Oh, ce sont des canailles. Croirais-tu qu'il fût Junker ? Naturellement, il s'est fait chasser du régiment. Imagine-toi qu'il est instruit. Il a des idées. Il aurait pu... Eh, au diable ! Et il est fort comme un Hercule. Il rend des petits services, mais n'a pas de zèle. Et tu peux voir, il ne se lave pas les mains. Je l'avais recommandé à une dame, une vieille dame, une grande dame. J'avais dit qu'il voulait se tuer à cause des remords de conscience. À peine entré, il se laisse choir sur un pouf et se met à siffler. Et l'autre, Lefebvre, est fils de général. Sa famille a honte de lui. Je l'ai arraché au tribunal, et voilà comme il me paie. Mais je les chasserai à coups de pied. Ils savent mon nom, tu leur as parlé de moi. J'ai eu cette bêtise. Je t'en prie, reste pendant le dîner, patiente. Il viendra là-bas encore une affreuse canaille. Est-ce que tu aimes la bonne chère ? C'est moi qui paie, ne t'inquiète pas. Je puis te donner de l'argent. Viens toujours. Cette montre qu'il a vendue, c'est la 2e fois qu'il me joue le tour. Ce petit Trikatov, tu as vu, Alphonsine dédaigne même de le regarder. Et tout à coup, au restaurant, en présence des officiers, il crie « Je veux des bécasses !» Je lui ai donné des bécasses. Seulement, je me vengerai. Te souviens-tu, Lambert, à Moscou, notre partie de restaurant et le coup de fourchette dans la cuisse et tes 500 roubles ? Oui, je me souviens. Diable, je me souviens. Je t'aime. Crois-le bien. Personne ne t'aime. Et moi, je t'aime. Moi seul, rappelle-toi. L'autre qui viendra là-bas, le grêlé, méfie-toi. S'il te questionne, réponds des bêtises. Tais-toi. Du moins, lui, à cause de son énervement, il ne me questionnait sur rien. Cependant, nous roulions vers le cabaret. J'étais même offensée de le voir si sûr de moi. Fort de la docilité que je lui témoignais jadis chez Touchard, il pense donc qu'il peut, aujourd'hui encore, m'ordonner n'importe quoi et me trouver obéissant. Inepte opinion qui ne va pas mal à cette brute. 3. Nous entrâmes dans le restaurant, dans la Morshkaya. J'y avais fréquenté au temps de mon abominable dégradation. Le salut des domestiques qui reconnaissaient en moi un habitué me fut pénible. J'eus l'obscur sentiment que j'allais de gaieté de cœur vers quelque action louche. Un moment, je fus sur le point de prendre la porte. Pourtant, je restais. Le grêlé signalé par Lambert, et qu'il craignait tant, je ne sais pourquoi, nous attendait déjà. Une de ces figures bêtement affairées que je hais depuis mon enfance. 45 ans environ, moyenne taille, grisonnant, le visage rasé jusqu'à l'obscénité, et des favoris limitant de leur cervelas un faciès plat et mauvais. Il était ennuyeux, grave, taciturne, et même, selon l'habitude de ces gens, hautain. Il m'examina attentivement, mais sans prononcer un mot. Lambert était si stupide que, convive, il n'avait pas trouvé nécessaire de nous présenter l'un à l'autre. On pouvait donc me prendre pour un de ces maîtres chanteurs qui faisaient la compagnie de Lambert. Les deux jeunes gens étaient arrivés presque en même temps que nous. Avec eux non plus, il n'échangea pas une seule parole durant le dîner, mais il était manifeste qu'il les connaissait. Il ne s'entretenait qu'avec Lambert, et encore, était-ce Lambert qui parlait. Le grêlé se contentait de répliques laconiques, disgracieuses et décisives. Il se tenait avec arrogance, tandis que Lambert, visiblement énervé, cherchait à le persuader de s'engager dans quelque entreprise. Comme j'allongeais la main vers la carafe de vin rouge, le grêlé saisit une bouteille de Jerez et, me la passant, « Essayez de ce vin-là, » fit-il. Je compris à je ne sais quoi que lui aussi savait tout de moi, et mon nom, et mon histoire, et peut-être les desseins à quoi Lambert prétendait me faire servir. Et la pensée d'être pris pour quelque sous-ordre m'en choléra. Le fait que le grêlé m'eût parlé parut inquiéter Lambert. Le grêlé le remarqua et se mit à rire. « Décidément, Lambert dépend de tout le monde, » pensais-je, et je le haïssais en ce moment de toute mon âme. Ainsi, tout en mangeant à la même table, nous étions séparés en deux groupes. Près de la fenêtre, l'un en face de l'autre, le grêlé avec Lambert. Moi, à côté du crasseux Andreïev et en face de Trikachov. Lambert pressait le service. Lorsqu'on apporta le champagne, il tendit vers moi son verre et, interrompant sa conversation avec le grêlé, « À ta santé, trinquons !»« Me permettez-vous aussi de trinquer avec vous ?» Et le poli Trichatov, qui jusqu'alors était resté plutôt silencieux et pensif, me tendit son verre à travers la table. Le dadais ne disait mot, il mangeait. « Avec plaisir, » répondis-je à Trichatov. Nous heurtâmes nos verres et bûmes. « Et moi, je ne veux pas boire à votre santé, » déclara d'une voix significative le dadais qui se tournait tout à coup vers moi. « Non que je veuille votre mort, mais pour aujourd'hui, je voudrais que vous cessiez de boire. Vous avez assez de 3 coupes. Vous regardez mon poing sale ? » continua-t-il en exhibant son poing sur la table. « Je ne le lave jamais. » Et tel quel je le loue à Lambert, pour bride de tête dans les circonstances chatouilleuses pour lui. » Et disant, il frappa la table avec une telle force qu'assiettes et verres sautèrent. Dans cette même salle, à 4 tables de la nôtre, dînaient des officiers et des gens du monde. Tous interrompirent pour un instant leur conversation et regardèrent notre coin. Depuis longtemps nous excitions quelques curiosités. Lambert était devenu tout rouge. Il recommence. Il me semble vous avoir prié, Nicolas Siméonovitch, de vous tenir, chuchota-t-il, furieux, à Andreïev, qui, l'ayant toisé longuement, répliqua. Je ne veux pas que mon nouvel ami Dolgorovski boive trop de vin aujourd'hui à cette table. Le grêlé écoutait, silencieux, mais avec un plaisir évident. La sortie d'Andreïev sembla lui plaire. Moi seul ne comprenais pas pourquoi je ne devais pas boire. « Il fait de l'esclandre pour me soutirer de l'argent. Vous aurez encore cette trouble après le dîner. Seulement, laissez-le s'achever. Ne nous faites pas honte. » grinça Lambert, qui avait rougi davantage. « Ah !» avait mugi victorieusement le dadais. Ce mugissement avait tout à fait enchanté le grêlé. Il ricanait. Cependant, le jeune Trichatov faisait des représentations à son tumultueux acolyte, qui se tut, mais pas pour longtemps. à quelques pas de nous, dînaient deux messieurs d'un certain âge, l'air peu endurant. L'un, grand et gros, l'autre, gros et court. Avec animation, ils s'entretenaient en polonais des événements de Paris. Le dadais, depuis longtemps déjà, les regardait avec curiosité et les écoutait. Le petit polonais lui avait paru très comique et il l'avait haï spontanément, à l'ordinaire des gens qui souffrent du foie. Tout à coup, le petit polonais prononça le nom du député Madier de Mongeau. Mais il prononça à la polonaise, c'est-à-dire en accentuant la penultième syllabe, d'où résulta non pas Madier de Mongeau, mais Madier de Mongeau. Cela suffit au dadais. Madier de Mongeau, rectifia-t-il. Les Polonais se tournèrent, indignés. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Cria le grand en russe. Madier de Mongeau, lança-t-il à la volée et sans plus d'explication que tantôt. Lorsque, se courbant vers moi, il répétait Dolgorovski. Les Polonais se levèrent d'un bond. Lambert se précipita vers Andreïev, mais le dépassa et s'avança vivement vers les Polonais, s'excusa très humble. « Ce sont des bouffons, monsieur, des bouffons !» répétait avec mépris le petit Polonais, rouge comme une carotte. « On ne pourra plus venir ici bientôt !» Un tumulte se propagea par la salle. Il y eut des protestations, mais surtout des rires. « Sortez, s'il vous plaît. Allons !» bégayait Lambert, tout à fait confus, en s'efforçant d'emmener Andreïev. L'autre examina curieusement Lambert et, devinant qu'il y avait de l'argent à percevoir, consentit à le suivre. Probablement, maintes fois avait-il traité Lambert par ce malhonnête procédé. Tritchatov avait d'abord voulu suivre le mouvement, mais, m'ayant regardé, il resta. « Ah, comme c'est fastidieux !» dit-il en fermant ses paupières de ses doigts effilés. « C'est assommant, c'est très assommant !» grommela le grêlé. Sur ce, Lambert revint, tout pâle, et, gesticulant avec animation, il se remit à parler presque à voix basse au grêlé. Celui-ci, cependant, ordonnait au garçon de servir en hâte le café. Il écoutait avec répugnance. Visiblement, il désirait s'en aller au plus vite. Tritchatov, apportant sa tasse, vint s'asseoir à côté de moi. « Je l'aime beaucoup !» commença-t-il d'un air aussi ouvert que s'il n'avait cessé de m'en parler. « Vous ne croiriez pas combien Andreïev est malheureux. Il a mangé la dot de sa sœur, et même davantage, pendant l'année qu'il a passée au service, et je le vois qui se tourmente maintenant. » Et s'il ne se débarbouille pas, c'est par désespoir. Il a des idées très étranges. Il vous dit tout à coup qu'une crapule et un honnête homme, c'est la même chose, qu'il ne faut rien faire, ni le bien ni le mal, ou qu'également on peut faire le mal et le bien, mais que le mieux est de rester couché, tout un mois, de boire, manger et dormir, sans plus. Mais croyez-moi, il ne le dit pas sérieusement. Et vous avez compris, je pense, qu'il vient de jouer ce tour à Lambert pour en finir avec lui. Il le disait encore hier. Le croirez-vous ? Parfois, la nuit ou quand il reste longtemps seul, il se met à pleurer. Et vous savez, lorsqu'il pleure, il pleure d'une façon particulière. Il pleure comme personne ne pleure. Il commence par hurler, hurler terriblement. Puis, et c'est triste d'un être si grand et si fort, il sanglote. Je veux le sauver. Et moi-même, je suis un si mauvais, un si dépravé garnement. Vous me laisserez entrer, Dolgorouki, si jamais je viens chez vous. Oh, venez, j'ai même de l'affection pour vous. Et pourquoi donc ? Enfin, merci. Écoutez, buvons encore une coupe. Non, ne buvez pas, ce sera mieux. Il a bien dit, il ne faut plus que vous buviez. Il clignait significativement. « Moi, je boirai tout de même. Cela ne me fait plus rien maintenant. Et d'ailleurs, je ne peux me contenir en rien. Qu'on me menace de ne plus m'emmener dîner au restaurant et je suis prêt à tout. Nous voulons toujours être honnêtes, demain, et demain recule toujours. Je crains affreusement qu'il se pende. Il le fera sans rien dire à personne, il est ainsi. Aujourd'hui, tout le monde se pend. Comment savoir? Peut-être y en a-t-il beaucoup comme nous. Moi, par exemple, je ne peux absolument pas vivre sans argent de poche. Le superflu m'est plus indispensable que le nécessaire. Dites, aimez-vous la musique? Je l'aime passionnément. Je vous jouerai quelque chose quand j'irai chez vous. Je touche très bien du piano. Si j'avais un opéra à composer, je choisirais le sujet de Faust. Je crée dans ma tête la scène de la cathédrale. Une cathédrale gothique, chœur, hymne, entre Gretchen. Et vous savez, les chœurs du Moyen-Âge, pour que ça sente le 15e. Gretchen est angoissée. D'abord récitatif, doux, mais intimement tourmentant. Et les chœurs tonnent lugubrement, sévèrement, indifféremment. Dies iré, dies ida. Et tout à coup, la voix du diable, la chanson du diable. Il est invisible, sa chanson seule. Et elle doit concorder presque avec les hymnes, ramper le long des hymnes, et pourtant en être si différente. La chanson. Il y faut un ténor, absolument un ténor. Commence doucement, tendrement. Te souviens-tu, Gretchen? Encore innocente, encore enfant, tu venais avec ta maman dans cette nef et balbutiais les prières du vieux missel. Mais la chanson devient toujours plus forte, plus fougueuse. Les notes s'exaltent. On y entend les larmes, l'angoisse infinie, sans issue, et enfin le désespoir. Il n'y a pas de pardon, Gretchen, il n'y a pas de pardon ici pour toi. Gretchen veut prier, mais elle crie, tant elle est convulsée. Et la chanson du diable persiste, imprègne son âme, envahit tout et culmine en ce cri « Tout est fini, tu es maudite !» Gretchen tombe à genoux, se tord les mains, et c'est ici que se place sa prière. Quelque chose de très court, demi-récitatif, naïf, sans fioriture, 4 vers, pas plus. Il y a dans Stradella le principe de ça. Gretchen s'évanouit, on la ramasse, on l'emporte, et ici, tout à coup, un cœur tonnant. C'est comme un jaillissement de voix, un cœur glorieux, triomphant, et qui absorbe tout dans son allégresse furieuse. Hosanna! Il faut que ce soit le cri de la rédemption de l'univers entier. Rideau. Non, voyez-vous, si j'avais seulement pu, j'aurais fait quelque chose. Seulement, je ne puis plus rien maintenant. Je ne fais que rêver. Je rêve toujours, toujours. Toute mon existence se transforme en un rêve. Je rêve même la nuit. Dolgorouki, avez-vous lu le magasin d'antiquités de Dickens? Oui. Eh bien? Vous rappelez-vous? Attendez, je boirai encore une coupe. Vous rappelez-vous ce passage vers la fin? Le vieillard fou et sa petite fille, une enfant de 13 ans, après leur fuite fantastique, se réfugient dans un coin perdu de l'Angleterre, à proximité d'une cathédrale du Moyen-Âge. Et cette fillette a pour industrie de montrer l'édifice aux visiteurs. Et une fois, au soleil couchant, cet enfant se tient sur le parvis et les derniers rayons la baignent. Et elle regarde l'astre et son âme ingénue s'oublie en mélancolique contemplation devant ce spectacle. S'y étonne comme devant une énigme. Et tout là est énigme. Le soleil, comme une pensée divine, la cathédrale, comme une pensée humaine. N'est-ce pas? Mais je gâche cette scène à vouloir la raconter. Et à côté, sur les marches, le vieux grand-père fou regarde l'enfant d'un œil fixe. Vous savez, il n'y a rien de particulier dans ce petit tableau de Dickens, absolument rien. Mais vous n'oubliez plus cela jamais, et cela restera dans le souvenir de l'Europe inattentive. Pourquoi? C'est le mystère de la beauté. Au lycée, je lisais toujours des romans. Vous savez, j'avais une sœur, à la campagne, d'un an seulement plus âgée que moi. Oh, à présent, tout est vendu et il n'y a plus de campagne. Nous étions assis sur la terrasse, sous nos très vieux tilleuls, et lisions ce livre. Et le soleil se couchait pareillement. Et soudain, nous avons cessé de lire, et nous nous sommes dit que nous aussi serions bons, serions beaux. Je me préparais alors à entrer à l'université, et... Ah, Dolgoruki, voyez-vous, chacun a ses souvenirs. Et penchant sa tête fine sur mon épaule, il s'était mis à pleurer. Je le plaignais beaucoup. C'est vrai qu'il avait bu trop de vin, mais il me parlait si franchement, si fraternellement, et dans un sentiment si pur. Tout à coup, de l'extérieur, on tambourina violemment sur la vitre. C'était Andreïev, les conduits. De la rue, son cri sauvage retentissait. « Oh, et Lambert ? Où est Lambert ? As-tu vu Lambert ? Oh, mais il est donc encore là ! » s'exclama mon dolent interlocuteur en repoussant sa chaise. « L'addition !» dit Lambert au garçon d'une voix grinçante. Ses mains tremblaient de fureur tandis qu'il se préparait à régler. Et voilà que le grédé prétendait empêcher qu'il payât pour lui. « Mais pourquoi ça? Je vous ai invité et vous avez accepté l'invitation ?» récriminait Lambert. « Non, permettez !» Le grêlé avait tiré sa bourse et, ayant calculé son écho, le solda séparément. « Vous m'offensez, Siméon Isidorovitch !»« Il suffit !» trancha Siméon Isidorovitch, qui sortit de la salle sans prendre congé de personne. Lambert jeta l'argent au garçon et courut après cet autre récalcitrant. Nous sortîmes alors, Trichatov et moi. Andreïev se tenait comme une perche devant la porte et attendait Trichatov. « Canaille !» n'avait pu retenir Lambert. « Niouf !» avait aboyé Andreïev et d'un coup sec qui lui fit rouler son chapeau sur le trottoir. Lambert eut l'humiliation d'aller le ramasser. « 25 roubles !» cria Andreïev, montrant à Trichatov le billet qu'il avait conquis sur Lambert. « Assez !» répondit Trichatov. « Pourquoi fais-tu toujours du tapage ? Et pourquoi lui as-tu arraché 25 roubles ? Il n'en devait que 7. »« Arraché ? Il avait promis un dîner particulier, avec des Athéniennes, et au lieu de femmes, il nous a servi le grêlé. Sans compter que je n'ai pas achevé d'engloutir ma part, et que j'ai attrapé froid sur le trottoir, » pour au moins 18 roubles. Allez au diable, tous les deux ! Hurla Lambert. Je vous chasserai tous deux, je vous mettrai sur la paille. Lambert, je vous chasse, et je vous mets sur la paille, décréta Andreïev. Adieu, mon prince, ne buvez plus de vin. Pétia, marchons. Ohé, Lambert ! Ohé, Lambert ! As-tu vu Lambert ? Cria-t-il pour la dernière fois, en s'éloignant à grandes enjambées. « Alors, je viendrai chez vous, on peut ?» me souffla à la hâte Trichatov en se mettant aux trousses de son ami. Je restai seul avec Lambert. « Eh bien, allons » fit-il comme reprenant haleine avec difficulté, et hébété encore. « Où aller ? Je n'irai nulle part avec toi » déclarai-je d'un ton provoquant. « Comment tu n'iras pas ? » s'inquiéta-t-il. « Mais je n'attendais que le moment de me trouver seule avec toi. »« Mais où aller ?» J'avoue que la tête me tournait un peu, du fait des 3 coupes de champagne et des 2 verres de Jerez. « Par ici, par ici, vois-tu ? » ?»« Mais c'est des huîtres fraîches ici, tu vois, c'est écrit, ça sent si mauvais de ce côté. » C'est parce que tu sors de table. Nous ne mangerons pas d'huîtres, mais je t'offrirai du champagne. Jamais de la vie. Tu veux m'enivrer. C'est eux qui te l'ont dit. Ils se moquaient de toi. Tu crois de tels drôles? Non, Trichatov n'est pas un drôle, mais je sais moi-même être prudent. Voilà. Quoi? Tu as ton caractère? Oui, j'ai du caractère. Plus que toi. Parce que toi, tu es l'esclave du premier venu. Tu nous as couverts de honte. Tu as fait des excuses aux Polonais, platement. Il faut croire qu'on t'a souvent rossé dans les restaurants. Mais nous avons à parler, imbécile. Voyons, as-tu peur de moi ? Es-tu mon ami ou non ?
je ne suis pas ton ami. Et toi, tu es un filou. Mais pour te prouver que je ne te crains pas, allons. Pouah, ça sent le fromage. Quelle puanteur.
Chapitre 6. 1. Qu'on se souvienne que la tête me tournait. Sinon, j'aurais agi et parlé autrement. Dans l'arrière-boutique, en effet, on pouvait manger des huîtres, et nous nous assîmes devant une petite table couverte d'une nappe sale. Lambert commanda du champagne. Une coupe de vin d'or se trouvait devant moi, me tentait, mais j'étais soucieux. « Vois-tu, Lambert, ce qui m'est surtout désagréable, c'est que tu penses pouvoir commander à présent, comme chez Touchard, alors que tu es ici l'esclave de tout le monde. »
« Bête ! Hé ! Trinquons !
Dissimule au moins que tu veux m'enivrer.
Tu extravagues. D'ailleurs, tu es ivre déjà. Donc, il faut boire encore, pour être plus gai. Allons, prends la coupe, prends.
Laisse-moi tranquille avec ton « prends ». Je m'en irai, et voilà tout ce que tu obtiendras. » Il me retint. « C'est Trichatov qui t'a monté contre moi. »
« J'ai vu, vous avez chuchoté tout le temps. Ça prouve que tu es un imbécile. Alphonsine éprouve de la répulsion lorsqu'il s'approche d'elle. C'est un vilain monsieur. Je t'en raconterai sur lui. »«
Encore Alphonsine, tu en abuses. Belle référence.
Pauvre garçon, que tu es donc borné. »«
Mes deux animaux, continuait-il sans se formaliser, passent maintenant du côté du grêlé. » Celui-ci est un chenapan qui les corrompra. Moi, j'exigeais toujours d'eux une bonne conduite. Je pris machinalement ma coupe et bus une gorgée. Aussitôt, il compléta la ration.
« Et tu les crains ? » continuai-je, toujours pour le taquiner. Assurément, j'étais alors plus abjecte que lui.
« Andreïev a envoyé promener ton chapeau, opération que tu lui as payée 25 roubles. »
Mais il lui en cuira.
C'est le grêlé surtout qui t'inquiète. Il me semble bien que je reste ta seule ressource. Je concentre tous tes espoirs, hein?
Oui, mon Arcade, cela est vrai. Toi seul reste mon ami. Tu as dit juste.
Et il me frappait sur l'épaule. Que restait-il à faire avec un homme si obtus? Dans son inintelligence, il prend une raillerie pour un compliment.
« Tu pourrais me tirer d'un mauvais pas si tu étais un bon camarade, Arcade, »
continua-t-il en me regardant tendrement.
« Et comment ?
Tu le sais bien. Sans moi, tu es un peu nigaud et tu resteras tel, assurément. Moi, je t'aurais procuré 30 000 roubles et nous les aurions partagés. Tu connais le moyen.
Mais regarde-toi. Qui es-tu ? Tu n'as rien. » On ne sait pas au juste comment tu t'appelles.
Et tout à coup, une somme, bien argentée, tu peux te faire une carrière. J'ouvrais les yeux tout grands. Je supposais qu'il allait ruser. Et voilà qu'il me parlait sans détour, comme à un gamin. La curiosité m'incita à l'écouter encore.
Vois-tu, Lambert, je consens à t'écouter, parce que j'ai l'esprit large, déclarai-je.
Et de nouveau, je bus. Lambert aussitôt remplit ma coupe.
Si quelqu'un comme Bioring avait osé m'injurier et me frapper devant la dame que j'adore, je ne sais ce que j'aurais fait. Toi, tu l'as supporté. Je te méprise, chief.
Tu oses dire que Bioring m'a frappé? C'est plutôt moi qui ai frappé.
Non, c'est lui, et pas toi.
Tu mens, je lui avais écrasé le pied.
Mais il t'avait frappé de la main, et il a ordonné au laquais de te chasser. Et elle était dans la voiture. Elle te regardait. Elle se moquait de toi. Elle sait que tu n'as pas de père, et qu'on peut te faire tout ce qu'on veut.
Lambert, tu dis tout cela pour m'exciter, et si grossièrement, si ouvertement. Crois-tu que je sois un bambin?
Tu t'es entendu avec Anna Andreïevna?
Fis-je, tremblant de colère, et buvant machinalement le vin par gorgée.
« Anna Andreïevna est une coquine. Elle nous trompera, toi, moi et le monde entier.
Je t'attendais parce que tu pourras plus facilement t'arranger avec l'autre.
Quel autre ?
Avec Madame Makov. Je sais tout. Tu m'avais dit toi-même qu'elle craignait la lettre que tu as.
Quelle lettre ? Tu mens. Tu l'as vue ?
Balbutiai-je.
Je l'ai vue. Elle est belle. Très belle. Et tu as du goût.
Je sais que tu l'as vue. Seulement, tu n'as pas osé lui parler. Et je ne veux pas que tu parles d'elle.
Elle se moque de toi. Voilà. Nous avions à Moscou une pareille vertu. Oh, qu'elle était fière. Mais comme elle s'amadoua quand nous l'eûmes menacée de tout raconter. Comme elle se fit humble aussitôt. Et nous avons tout pris. L'argent et le reste.
Tu comprends, quoi?
À présent, elle est de nouveau inaccessible. Elle est à la hauteur. Et quelle voiture!
Ah, si tu avais vu dans quelle bouge cela se passa, tu n'as pas vécu encore. Si tu savais dans quel taudis elle ne craigne pas de...
Je l'ai pensé,
balbutiai-je involontairement. Elles sont vicieuses jusqu'au bout des ongles. Tu ne sais pas de quoi elles sont capables. Alphonsine était placée dans une maison pareille. Elle en était dégoûtée.
J'ai bien pensé... On te bat et tu as pitié.
Lambert, tu es une canaille. Tu es un bas sacripant, m'écriai-je avec un tressaillement, comme comprenant soudain. J'ai vu tout cela en songe. Tu étais à côté d'Anna Andreevna. Oh, la malédiction est sur toi. Est-ce que vraiment tu m'as pensé si lâche? Et je n'ai vu cela en songe que parce que je savais que tu parlerais ainsi.
Allons bon. Le voilà fâché. Eh bien, mon petit frère Arcade, maintenant je sais tout ce qu'il me fallait. C'est pour cela que je t'attendais. Tu l'aimes, et tu veux te venger de Bioring. Voilà ce que je voulais savoir. Tout le temps que je t'attendais, je l'avais soupçonné. Ceci posé, cela change la question. Et tant mieux, parce qu'elle m'aime, elle t'aime. Marie-toi. Sans plus tarder, c'est le mieux. Puis, tu ne peux pas faire autrement. Tu as choisi la meilleure part. Et ensuite, sache bien, Arcade, que tu as un ami, moi, de qui tu peux faire ce qu'il te plaît. C'est cet ami-là qui t'aidera et te mariera. J'irai chercher jusque sous terre tout ce qu'il faudra, mon petit. Et la chose entendue, fais cadeau de 30 000 roubles à ton vieux camarade, pour sa peine, hein? Et confiance. Dans toutes ces affaires, je connais les roueries convenables. On te donnera entière la dot, et te voilà un richard. Ta situation est faite. La tête me tournait, mais je regardais Lambert avec étonnement. Il était sérieux. Je voyais bien qu'il croyait lui-même à la possibilité de ce mariage. Et bien que je m'étonnasse de le voir donner dans une telle folie, j'y donnais moi-même. Accorder cela.
Mais est-ce possible ? Balbutiai-je.
Pourquoi non ? Tu lui montreras le document, elle aura peur et t'épousera pour ne pas perdre l'argent.
J'étais décidé à ne pas arrêter Lambert dans l'exposé de ses vilainés. J'avais seulement marmonné que je ne voudrais pas me marier par force.
Mais il ne s'agit de forcer personne. Faut-il que tu sois dégoûtant pour supposer cela de ma part?
Elle aura peur et consentira. Et, se reprit-il, elle consentira encore parce qu'elle t'aime.
Tu mens. Tu te moques de moi. Comment sais-tu qu'elle m'aime?
J'en suis sûr. Et Anna Andreevna le suppose. Et d'ailleurs, je te raconterai une chose lorsque tu viendras chez moi et tu verras qu'elle t'aime. Alphonsine a été à Tsarkoïe. Elle aussi l'a appris.
Qu'a-t-elle pu apprendre?
Allons chez moi, elle te racontera ça elle-même.
Et qu'est-ce que ça a de drôle?
Es-tu plus mal que les autres? Tu es beau, tu es bien élevé.
Oui, je suis bien élevé, murmurai-je.
Mon cœur battait, et pas seulement à cause du vin.
Tu es beau, tu es bien mis.
Oui, je suis bien mis.
Et tu es bon?
Oui, je suis bon.
Pourquoi ne consentirait-elle pas?
Bioring ne la prendra pas sans argent. Or, tu peux la priver d'argent. Tu l'épouseras et tu te vengeras de Bioring. Toi-même, cette nuit-là, tu sais, la nuit dans la neige, tu m'as dit qu'elle était amoureuse de toi.
L'ai-je dit ? Sûrement, je n'ai pas dit ça.
Tu l'as dit.
C'était dans le délire. Et sûrement, je t'ai aussi parlé du document.
Oui, tu disais que tu possédais une lettre.
Et je pensais, comment, ayant une pareille arme, n'en profite-t-il pas ?
Fantaisique tout cela, et je ne suis pas sot au point de croire,
balbutiai-je. Premièrement, la différence d'âge, et deuxièmement, je n'ai pas de nom.
Mais elle consentira. Il lui est impossible de ne pas consentir devant tant d'argent en cause. J'arrangerai cela.
Et puis, elle t'aime.
Tu sais, le vieux prince est tout à fait bien disposé pour toi. Grâce à sa protection, quelle relation tu vas nouer. Et pour ce qui est du nom, aujourd'hui cela ne signifie plus rien. Une fois que tu auras empoché l'argent, il fructifiera, fructifiera, et dans 10 ans, tu seras un millionnaire dont parlera toute la Russie.
Dès lors, que t'importe d'avoir un nom ?
En Autriche, tu pourras acheter une baronnie. Et quand tu seras marié, impose ta volonté. Il faut les tenir serrées. Elles aiment ça. Et le coup de la lettre lui montrera d'emblée ton caractère.
« Hum, » dira-t-elle, « si jeune et déjà tant de décisions. »
Je restais comme hébété. Avec nul autre, je ne me serais abaissé à une discussion semblable. Un vol besoin de confidence m'entraînait à continuer. Avec ça, Lambert était tellement vil et tellement ganache qu'il n'y avait pas à avoir honte.
« Vois-tu, Lambert, tu ne connais pas le grand monde. Tout dans ce milieu-là est soumis aux convenances familiales, de sorte que, dans l'ignorance où elle se trouve de mes capacités et de la situation que je puis atteindre, elle se dérobera. Mais je ne te cacherai pas, Lambert, que vraiment il y a un point qui doit donner espoir. Elle peut se marier avec moi par reconnaissance, car je la délivrerai alors de la haine d'un homme, et elle craint cet homme.
Ah, tu veux parler de ton père ? Est-ce qu'il l'aime vraiment ?
Interrompit Lambert avec une vivacité extraordinaire.
Oh non, m'écriai-je, est-ce que j'aurais pu songer à me marier s'il l'avait aimé ? Tout de même, le père et le fils, ce serait honteux. Il aime maman, et j'ai vu comme il l'embrassait. J'avais pensé, moi aussi, qu'il aimait Catherine Nikolaïevna. Mais maintenant, je sais nettement que, si peut-être il l'a aimée autrefois, depuis longtemps il la hait. Il veut se venger, et elle a peur, parce que, je te dirai, Lambert, il est terrible lorsqu'il se venge. Il devient presque fou. Quand il se fâche contre elle, il ne se sent plus. C'est une haine dans le vieux genre et pour des principes supérieurs. De nos jours, on se moque de tous les principes, en général. De nos jours, il n'y a pas de principe directeur, mais seulement des cas particuliers. Ah, Lambert, tu ne comprends rien, tu es bête comme tes pieds. Je te parle de ces principes et sûrement tu ne comprends rien. Tu ne te doutes pas combien tu es ignare. Te souviens-tu ? Tu me battais. Je suis plus fort que toi maintenant, le sais-tu ?
Arcade, mon bon petit Arcade, allons chez moi. Nous passerons la soirée ensemble en buvant encore une bouteille, et Alphonsine chantera avec accompagnement de guitare.
Non, je n'irai pas. Écoute, Lambert, j'ai une idée. Si je ne me marie pas, je m'adonnerai à cette idée. Et toi, tu n'as pas d'idée.
Bien, bien, tu nous raconteras tout cela. Allons.
Je n'irai pas, je ne veux pas et je n'irai pas. Je te donnerai 30 000 roubles, soit, mais je suis plus propre que toi. Je vois que tu veux me tromper en tout. Je te défends de penser même à elle. Elle est supérieure à tous et tes plans sont d'une telle bassesse que tu m'étonnes même, Lambert. Je veux me marier. C'est autre chose, mais je n'ai pas besoin de fortune. Je méprise la fortune. Je ne prendrai pas cette fortune, me l'offrit-on à genoux.
Mais se marier, c'est autre chose. Et tu sais, tu as bien dit cela, la tenir serrée, aimer, passionnément aimer, avec toute la générosité que l'homme possède et qu'une femme ne peut jamais avoir. Mais être despotique, cela est bien. Parce que, sais-tu, Lambert, la femme aime le despotisme. Toi, Lambert, tu connais la femme. Mais pour le reste, tu es étonnamment stupide. Et tu sais, Lambert, tu n'es pas aussi vil que tu le parais. Tu es franc. Je t'aime. Ah, Lambert, pourquoi es-tu si filou? Autrement, nous aurions pu vivre heureux. Tu sais, Trichatov est gentil. Nous étions déjà dans la rue, comme je débitais ces lambeaux incohérents. Oh, je retrace tout jusqu'au moindre détail, afin que le lecteur voie que, malgré tous mes serments de renaître au bien et de chercher le beau, je pouvais encore tomber jusqu'à une pareille boue. Et je jure que sans ma certitude d'être à présent tout autre, transformée que j'ai été par la vie, je n'aurais pour rien au monde fait l'aveu de si basses ignominies. Lambert me soutenait. Je le regardais subitement. Il m'observait avec la même persistance, le même sang-froid que ce matin qu'il me menait, presque un glaçon, vers la voiture. Je m'en rendais compte. Chez ceux qui commencent à être gris et ne sont pas encore ivres, il est des moments subits de complète lucidité. « Je n'irai pas chez toi, » prononçai-je, le regardant narquoisement et l'écartant de la main. « Laisse donc, je dirai à Alphonsine de préparer du thé. Laisse donc. » Il était bien sûr que je ne lui échapperais pas. Il m'enlaçait avec joie, comme une petite victime. Et sûrement je lui étais nécessaire, ce soir précisément, et dans cet état. Plus tard, j'expliquerai pourquoi. « Je n'irai pas, » avais-je répété. « Cocher !» Une voiture passait, où je sautais. « Où vas-tu? Et que fais-tu ? » glapit Lambert, me saisissant par la pulisse. « Et n'aie pas l'audace de me suivre. » Le cheval partit, et Lambert dut lâcher la pulisse. « C'est égal, tu viendras !» me cria-t-il d'une voix mauvaise. « Si je veux !» répliquai-je en me tournant vers lui.